Frères et sœurs bien-aimés, un certain nombre d'entre vous êtes venus pour participer à un week-end en famille, un week-end spirituel. Et la famille, qu'est-ce que c'est si ce n'est le lieu de la transmission ? Transmission des gènes, transmission du patrimoine, transmission de la foi et de toutes les valeurs chrétiennes qui lui sont attachées et que nous retrouvons dans l'Évangile. Transmission, c'est certainement quelque chose quand on forme une famille qui habite le cœur des parents et des grands-parents. Et je me dis, tiens, sans le faire exprès, vous êtes tombé sur le bon dimanche. C'est le dimanche de la transmission. Non, je ne me trompe pas. La transfiguration est une transmission. La preuve, à la fin de l'évangile que nous venons de lire, Jésus dit, la nuée, une voix de la nuée, on pense à la voix du Père, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Écoutez, c'est un récepteur et un émetteur. Alors, non seulement pour des ondes hertziennes, mais aussi pour la transmission vécue à l'intérieur de la famille, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une parole qui est dite et d'une parole qui est accueillie. Mais dans ce récit de la transfiguration, et ce n'est que dans Saint-Luc, il y a trois récits, donc Matthieu, Marc et Luc, il n'y a pas dans Saint-Jean, on verra peut-être plus tard où est-ce que ça peut éventuellement trouver sa place, mais dans Saint-Luc, il y a un bug dans la transmission. Ça arrive, les micros font du Larsen, on n'entend pas la personne qui parle. Voilà. Et là, ce n'est pas tellement la personne qui parle, c'est une question de sommeil. Les compagnons, Pierre et ses compagnons, étaient accablés de sommeil. Voilà. Donc, il y a un moment donné où, au fond, Jésus va manifester sa gloire, va transmettre sa divinité, va transmettre l'expression de sa divinité. Et en même temps, ça fait un peu un passage en même temps lié, l'annonce, la première annonce de la Passion, qui est aussi une transmission. Ce serait ce bloc-là qu'il faudrait lire ensemble pour bien comprendre. Mais est-ce que c'est vraiment un bug dans la communication que cette question de sommeil ? La première lecture, nous avons un problème de sommeil. Nous avons un problème de sommeil au coucher du soleil. On a entendu juste dans le livre de la Genèse, un sommeil mystérieux tombera sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses et un brasier fumant et une torche enflammée. Le sommeil. Comme si, pour accueillir la transcendance, l'homme devait lâcher prise. Pour rentrer dans une transmission, il faut accueillir quelque chose où on n'a pas un contrôle. Et vous avez dans la parole de Dieu plusieurs lieux. Vous vous rappelez évidemment Gethsémani, hein, puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, les trois mêmes, commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit « Mon âme est triste à mourir, reste éveillé. » Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait. Et ensuite, il revient et trouve ses disciples endormis, et ce par trois fois. Sommeil qui est aussi présent au tout début de la création avec Adam. Vous vous souvenez, alors que Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, l'homme s'endormit et le Seigneur prit une de ses côtes et la referma. Voilà. Et puis c'est la création d'Ève, c'est-à-dire celle qui est à ses côtés, et c'est là où il peut émettre une parole. Mais sommeil aussi qui est présent à la résurrection, mais comme une sorte de contre-témoignage, comme une excuse. Vous vous rappelez que les soldats ont passé un accord avec les grands prêtres et en disant « Vous direz, ces disciples sont venus voler le corps pendant la nuit alors que nous dormions. » Et c'est cette explication qui s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est intéressant de voir au fond, est-ce que c'est vraiment un bug cette histoire de sommeil, de ce moment où on lâche prise, où on n'est agi par Dieu, où on n'est pas dans le contrôle, est-ce que ce n'est pas une pédagogie de la transmission ? Est-ce que la transmission, au fond, ne demande pas aussi quelque chose de cet ordre-là, qu'à un moment donné, c'est l'œuvre de Dieu lui-même qui touche les cœurs des uns et des autres ? C'est là où on est peut-être le moins conscient que Dieu agit le plus. Là où on n'a pas forcément quelque chose à dire, à proclamer, on le sait très bien. Les psychologues disent que 70% de la communication est non-verbale. Et donc, dans votre désir de transmettre comme famille, je trouve que c'est tellement rassurant de dire que la grâce de Dieu se donne alors que nous ne sommes pas nous-mêmes éveillés, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une attitude d'action, d'activité. Elle se donne, que l'on se couche ou que l'on se lève, eh bien le Seigneur fait rayonner sa parole. C'est important aussi de s'en rappeler parce que on peut parfois tomber dans une hérésie qui a été dénoncée dans l'Église, ce qu'on appelle le pélagianisme. Vous vous rappelez ce moine Pélage, ce cher ami Pélage, qui dit au fond, c'est nos actes qui amènent la grâce. Hein, c'est nos actes qui amènent la grâce. C'est moi qui fais venir la grâce, pour résumer à grands traits. Et puis non, la grâce, c'est la grâce. La grâce, elle est gratuite. Elle arrive là où tu n'attends pas. Elle arrive de la manière que tu n'as pas prévue. Alors, ensuite, il y a eu une autre dérive dans cette Sainte Église, c'est ce qu'on appelle quiétisme. Il faut juste rien faire. Il faut rien faire, la grâce vient. Bah, non, non. C'est vrai Dieu, vrai homme. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a un agir humain, et à la fois, c'est la grâce qui est là. Donc, c'est intéressant de voir parfois, j'imagine, et de par l'accompagnement que je peux avoir des familles, etc., on est peut-être plus dans la première manière d'agir, pensant qu'au fond, ça va dépendre de moi. Et donc, se mettant une pression, les parents se mettant une pression pour transmettre. Alors bon, transmettre la vie, je pense qu'on est éveillé. Transmettre le patrimoine, c'est bien quand on va chez le notaire d'être aussi éveillé. Il n'y a pas de problème de sommeil, en tout cas, je n'en ai pas entendu parler. Mais transmettre la foi, c'est quand même quelque chose de pas ordinaire. Et regardez dans vos familles, je pense que l'immense majorité d'entre vous, vous êtes nés dans des familles chrétiennes. Mais vos frères et sœurs, vos cousins, cousines, comment se sont-ils emparés de la foi ? Chacun à sa manière, et c'est bien ainsi, parce que c'est un vrai acte de liberté. Croire, c'est choisir. On choisit à un moment donné, si nous sommes ici, c'est que nous avons choisi d'être ici. Donc je trouve ça intéressant de dire, au fond, est-ce que c'est vraiment un bug, cette question de sommeil, ce moment où l'homme est complètement abandonné, est complètement disponible, est complètement... dans un lâcher-prise, dans une confiance, ou est-ce que ce n'est pas une pédagogie ? Une pédagogie qui fait qu'on doit renoncer à avoir un contrôle par rapport à ce qu'on transmet, mais de dire que cette transmission, elle va venir aussi du Seigneur et d'une manière souvent imprévue. On fait le bien sans s'en rendre compte, mais c'est tellement rassurant. Tellement rassurant. On fait le bien sans s'en rendre compte. On témoigne sans parole. C'est comme ça que j'interprète le sommeil. On témoigne sans parole, sous langage non verbal, sous langage des actes, parce qu'on sait très bien que actes et paroles en hébreu, eh bien, c'est aussi cette attitude qui va ensemble, c'est le même mot. Et ce qui est intéressant, c'est dans la première lecture, donc on voit cette alliance faite avec Abraham, avec le Seigneur. Voilà, il y a une alliance entre les deux. Et en hébreu, on ne dit pas sceller une alliance, on dit couper une alliance. Et c'est intéressant parce qu'au fond, le fait qu'Abraham passe par cette étape de sommeil, de lâcher prise, de laisser Dieu agir, fait que j'ai à un moment donné l'accueil de la transcendance, l'accueil de l'altérité, couper une alliance. Tu n'es pas moi, je ne suis pas toi. Comme pour accueillir la transcendance, il y a un passage obligé, qui est ce passage du sommeil, le passage où on se laisse complètement conduire, on s'abandonne au Seigneur. Et ce passage obligé fait que je reconnais l'autre comme autre que moi. C'est intéressant, il passe entre les morceaux, il coupe les morceaux, vous relirez le passage chez vous, il coupe les morceaux et le feu du Seigneur, c'est cette alliance, vient consumer les morceaux, passe au milieu. Voilà, comme pour dire que vivre une alliance, transmettre une foi, c'est accueillir aussi que le Seigneur est au milieu. Ce n'est pas moi qui suis au milieu, ce n'est pas moi qui suis à la manœuvre, c'est lui qui est à la manœuvre. Cette altérité comme une condition d'accueil de la transcendance. Altérité, condition de la transcendance, d'accueil de la transcendance et accueil de la transcendance, cette condition, à un moment donné, il y a un repos, il y a un lâcher-prise, il y a une confiance. Je trouve que c'est intéressant de travailler sur ces deux points-là parce que c'est pas forcément intuitif. On serait plus dans la manière d'agir et on voit bien, même aussi dans notre manière d'être, comme on veut faire des choses, et c'est bien aussi de faire des choses pour être proposant, et vous l'êtes aussi vous, pour vos enfants, j'en suis sûr, et petits-enfants, mais à un moment donné, il y a des choses qui marchent, et on ne sait pas pourquoi. Par exemple, mercredi des cendres, toutes les messes étaient blindées. Toutes les messes étaient blindées de jeunes. Mais d'où est-ce qu'ils viennent? On n'a pas fait de tract, on n'a pas fait de publicité. Il n'y a pas eu de quelque chose sur Internet, rien. Et ils arrivent. Ils arrivent aussi par dizaines, par centaines, des catéchumènes, des personnes de tous âges qui demandent le baptême. Mais comment ça arrive? Personne ne peut dire. Il n'y a pas eu de plan pastoral. Voilà. Parfois, il y a eu toute une époque, il fallait avoir des plans pastoraux, absolument, qui marchaient comme ça marchait, bon, comme marchait un plan pastoral, Mais là, il n'y a pas eu de plan. Il y a la grâce, il y a le kairos. Ce qu'on appelle le kairos, vous savez qu'en grec, il y a deux manières de dire temps. Il y a le chronos, le chronomètre. Hein, chronos, c'est le temps de la montre. Et puis le temps de la grâce, le kairos. C'est le temps de l'imprévu, le temps de quelque chose qui est en devenir, qui appelle à un ailleurs, à un au-delà. Parce que accueillir la transcendance et voir qu'il y a une réponse à cet accueil de la transcendance, c'est justement l'invitation à cette altérité. C'est quoi l'invitation à l'altérité, si ce n'est l'invitation à un au-delà, à un ailleurs, à quelque chose de plus grand? Alors, chère famille, vous qui êtes venus pour cette retraite, ou vous qui êtes parents ou grands-parents, vous êtes dans une logique de transmission. La transfiguration, c'est vraiment le dimanche de la transmission. C'est vraiment cette pédagogie que le Seigneur nous dit. Au fond, si il y a un moment donné où on va être dans une attitude d'accueil. Parce que dans le sommeil, on est dans une attitude d'accueil. Alors on va demander cette grâce particulière au Seigneur. Parce que c'est une Pâque. Hein. C'est une Pâque. Et ce n'est pas pour rien que la transfiguration est liée à la première annonce de la Passion. C'est une Pâque. C'est un passage. C'est un vrai changement de logiciel. C'est vraiment un changement intérieur. Hier, je discutais avec une mère de famille. Elle me dit « Ah, mes enfants, voilà, ils arrivent à 18 ans, ils partent, etc. On aimerait leur éviter les erreurs. » Oui, si ce n'est qu'on ne peut pas être et avoir été et que les erreurs, ils vont connaître. Mais est-ce que je suis capable aussi d'accueillir ces erreurs, de ces blessures, hein? Dieu n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous. Il ne s'agit pas d'erreur, mais il ne lui a pas épargné les épreuves. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est vrai, quand on est parent, on a cette... C'est normal, un peu le réflexe, entre guillemets, de mère juive, parce qu'aussi, dans l'histoire, les mères juives ont eu beaucoup de soucis à se faire pour leurs enfants, mais de protection et de surprotection. À un moment donné, non. On étouffe des personnes, par exemple, qui étouffent au niveau de la foi, dans leur famille. Ils ont étouffé. J'en ai trop mangé. J'entends ça de jeunes que j'accompagne vers le mariage. On ne laisse pas l'autre franchir l'épreuve. Et l'épreuve, c'est l'accueil du réel. Et l'accueil du réel, c'est un réel qui est habité par la transcendance de Dieu. Vous voyez ? Donc je trouve que c'est intéressant de méditer sur cette pédagogie de la transmission qui est dans ce bloc de l'annonce de la Passion et de la transfiguration, comme une pédagogie aussi pour notre vie et qui rejoint l'Eucharistie. Qui peut dire à quel moment, c'était une, une des questions que je posais à un moment donné, il y a la présence réelle. Est-ce que, à quel moment de la parole du prêtre? À quel moment de la parole du prêtre? C'est intéressant. Et ben, du coup, on s'est dit, non, mais c'est, en fait, c'est une, dans la liturgie que se donne la présence. Et c'est, je dirais, une étude d'avoir, de vouloir la, mettre la main sur le mystère, sur la grâce. C'est toute une liturgie de la parole, de la miséricorde, hein, de Dieu l'Esprit Saint, qui fait que nous croyons que Jésus est vraiment présent sur l'autel. Donc, ça, on va, je crois que ça nous bouscule, ce récit, cette pédagogie eucharistique et de la transfiguration, ça nous bouscule, ça nous emmène loin de nos certitudes, ça nous fait sortir de notre zone de confort pour devenir les témoins d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.